à l'écoute de RFI, Radio France Internationale. Et je vous en remercie. Il est 2h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
Dans l'actualité, nous y sommes. L'élection présidentielle américaine, c'est ce mardi. Dernier meeting en cours pour les deux candidats dans les États clés. Donald Trump prépare ses soutiens à contester le résultat des urnes en cas de défaite. Mais le Parti démocrate a prévu un plan. On vous explique tout en début de journal. À suivre, la COP29. La conférence approche à grands pas, c'est lundi prochain. Elle se tient en Azerbaïdjan et les autorités du pays sont accusées de museler plusieurs ONG, vous l'entendrez. Et puis en France, ouverture du procès des complices de l'assassin de Samuel Paty, analyse des profils en fin de journal. Aux États-Unis, le camp Trump semble préparer les esprits à de possibles fraudes lors de l'élection de ce mardi 5 novembre. C'est dans ce sens que le Comité national des Républicains affirme avoir rassemblé 230 000 volontaires pour veiller au bon déroulement des élections dans les bureaux de vote. Ils ont été formés pour dénicher les irrégularités. Mais en cas de défaite de Donald Trump, le Parti démocrate craint que ces volontaires républicains soient utilisés pour semer le doute et multiplier les actions en justice et a décidé d'envoyer ses propres bénévoles, souvent des avocats. C'est le cas de Ron Rousseau. Il surveillera le déroulement du scrutin en Géorgie. Karen Houghton l'a rencontré.
Ron Rousseau, avocat de Brooklyn spécialisé dans la criminalité en col blanc, sera à l'œuvre dans un bureau de vote du comté rural de Banks, en Géorgie. Comme des dizaines de milliers d'avocats bénévoles, il sera les yeux et les oreilles du parti qui l'envoie. Lui a été dépêché par le Parti démocrate pour surveiller le scrutin et le comptage des voix ensuite.
Un de mes rôles va être d'être témoin de la vérité. Beaucoup d'avocats sont très, très attachés à notre démocratie et veulent voir que, quel que soit celui qui deviendra président, ce sera légitime. Il y a cette remise en question de la légitimité depuis 2020. Il y a même eu 60 procès au niveau fédéral pour cela, mais qui ont prouvé qu'il n'y avait pas eu de fraude.
Quel que soit le parti, une formation est dispensée en ligne. Les règles dictées par les démocrates sont simples.
Si vous voyez une croix gammée, si vous voyez un drapeau confédéré, et c'est difficile de se dire qu'on doit encore se préoccuper de ça en Amérique en 2024, mais c'est le cas, eh bien vous n'allez pas confronter qui que ce soit. Vous appelez directement la cellule de crise qui rassemble des experts locaux en droit électoral en Géorgie, des avocats de Géorgie, et vous les laissez s'en occuper.
Les rumeurs de fraude, elles, se propagent par les réseaux sociaux et le FBI a déjà alerté samedi que deux vidéos répandant l'idée de fraude électorale contre Donald Trump avaient été mises en ligne depuis la Russie. Karen Houghton, New York, RFI.
À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote aux États-Unis, un tiers des électeurs a déjà voté par anticipation, à l'image de la candidate démocrate dimanche, par correspondance même. Donald Trump, lui, votera en personne ce mardi près de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.
RFI à Cotonou, 90 FM.
La capitale économique du Bénin qui accueille pour 4 jours une réunion de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux catastrophes et épidémies, l'APORA. L'événement regroupe des délégués de 38 pays, responsables de forces armées, des secours, des services de santé et de la protection civile. Une initiative fortement soutenue par l'état-major unifié des États-Unis pour l'Afrique, l'AFRICOM. Depuis Cotonou, la correspondance de Jean-Luc Aplogan.
Très forte présence américaine dans l'organisation avec des documents de présentation en anglais. Les Américains financent les programmes de l'Alliance et apportent également leur expertise. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hongkwatin, définit cette alliance comme un pilier essentiel de solidarité et de coopération entre les pays africains dans la lutte contre les épidémies et les catastrophes. L'occasion pour son collègue de l'Intérieur de parler du dispositif de la sécurité routière face au nombre de morts enregistrés sur les routes béninoises, Alassane Seydou.
700 décès au moins. Face à ce fléau, le gouvernement a pris des mesures adéquates et hardies. Sensibilisation, contrôle du port strict de casque, port de la ceinture de sécurité à bord des véhicules, des radars pour contrôler le non-respect des limitations de vitesse.
La seconde journée, mardi, sera un moment fort avec un exercice grandeur nature. Exemple, un cas d'accident de la route et un autre sur la détection d'un cas de Mpox. Selon le ministre de la Santé, c'est tout le dispositif qui sera éprouvé. Benjamin Hongkwatin.
l'échantillon. De l'isolement du cas à sa prise en charge par nos équipes jusqu'au transfert de l'échantillon vers le laboratoire de fièvre hémorragique virale.
L'exercice se déroule à la sortie de Cotonou. Une évaluation suivra pour enrichir les manuels de riposte. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Prenons à présent la direction de l'Azerbaïdjan. Plus d'une trentaine de militants associatifs et de journalistes arrêtés ou harcelés dans le pays depuis le début de l'année. À l'approche de la COP29 à Bakou, la capitale, plusieurs ONG dénoncent les violations des droits humains perpétrées par les autorités de l'Azerbaïdjan. Selon Human Rights Watch, les arrestations et les pressions exercées à l'encontre de la société civile n'ont cessé d'empirer ces derniers mois. À ce propos, écoutez Georgi Gogia, directeur adjoint de la division Europe et Asie centrale de Human Rights Watch, joint par Daniel Valo.
L'Azerbaïdjan affiche un mauvais bilan en matière de respect des droits de l'homme depuis plusieurs décennies, mais la situation s'est considérablement dégradée au cours des mois qui ont précédé la COP29. L'Azerbaïdjan a un gouvernement autoritaire qui ne tolère pas la critique, et ces derniers mois, il a lancé une vague d'arrestations de journalistes indépendants et d'activistes de la société civile. L'Azerbaïdjan ne supporte pas que l'on interfère avec ses efforts pour blanchir son bilan en matière de respect des droits humains. Et il considère que les ONG, la société civile, les médias veulent profiter des événements internationaux qu'il organise, comme la COP29, pour révéler au grand jour les violations des droits de l'homme dans le pays. On peut donc considérer ces arrestations et cette répression comme des mesures préventives prises par les autorités pour faire taire les critiques avant l'organisation de cette conférence.
Et top départ de la COP29 à Bakou lundi prochain, le 11 novembre. Elle partage une frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est la Géorgie où des milliers de pro-européens sont descendus dans la rue ce lundi, plus d'une semaine après la victoire du rêve géorgien aux législatives. Un résultat non reconnu par l'opposition pro-européenne de la présidente Salomé Zourabichvili. Les manifestants ont dénoncé un scrutin entaché de fraude lié au parti pro-russe. Et tandis que le Kremlin rejette les accusations d'ingérence, l'UE et les États-Unis réclament des enquêtes. On progresse à l'Assemblée nationale. Les députés français ont approuvé ce lundi la partie recette du PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le texte amendé et passé grâce aux voix de la gauche prévoit 17 à 20 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. L'Assemblée qui peut désormais se pencher sur la partie dépenses du texte. On reste en France avec l'actualité judiciaire. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, la cour d'assises spéciale va juger 8 personnes. 7 hommes, une femme. Ils sont accusés d'avoir contribué à la campagne de haine qui a conduit à la mort du professeur d'histoire. Frédéric Genot, qui sont ces 8 personnes?
2 d'entre eux sont des amis du tueur. Ils sont accusés de complicité d'assassinat terroriste. Ils ont notamment accompagné Abdullah Anzorov dans une coutellerie de Rouen la veille de l'attentat. C'est pour cela que leur implication est plus grave que celle des autres accusés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres accusés doivent répondre d'associations de malfaiteurs terroristes et risquent jusqu'à 30 ans de prison. Brahim Chnina est le père d'une collégienne de 13 ans qui a menti. Elle était absente au cours de Samuel Paty. Elle a raconté que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de quitter la classe, ce qui est faux. C'est en relayant la version de sa fille sur les réseaux sociaux que Brahim Chnina a attiré l'attention d'Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste qui l'a accompagné devant le collège, a tourné une vidéo qui a ensuite largement circulé. Seront également jugées 3 autres personnes qui appartenaient à des groupes Snapchat gravitant autour de l'assassin et une femme militante radicale qui aurait conforté Abdullah Anzorov dans son projet, même si elle n'en connaissait pas la nature.
Les mineurs qui avaient notamment guidé l'assassin en lui désignant Samuel Paty ont eux été jugés l'an dernier. Ils ont été condamnés à des peines allant de 14 mois avec sursis à 6 mois de prison ferme. Les opérations de recherche des disparus se poursuivent en Espagne. Elles se concentrent sur les parkings souterrains de la région de Valence où une morgue se tient prête à accueillir près de 400 victimes. Pour le moment, le bilan des inondations tragiques de la semaine dernière s'établit à 217 morts. excédé. Les rescapés ont réservé un accueil hostile au roi, à la reine et au premier ministre dimanche. Felipe VI, Laetitia et Pedro Sanchez reçus par des jets de boue et des insultes. Tout l'inverse. Ce lundi soir en football, pancarte de soutien aux Valenciens et minutes de silence dans l'unique match de Liga espagnole. Le Celta Vigo l'a emporté 1-0 face à Getafe. Et puis, duel de milieu de classement en Angleterre. Brentford s'incline à Fulham 2-1 après avoir mené quasiment tout le match. Enfin, bien aidé par deux cartons rouges pour leur adversaire du soir, la Lazio Rome gagne 2-1 contre Cagliari en Italie. Les Romains ont ouvert la marque grâce à un but du Sénégalais Boulaye Dia. Il est 2h10, ici à Paris 1h10 en temps universel.